Hyper rural.
Des récits de vie,
de la montagne
limousine.
Dans ce podcast, je te propose de prendre le temps de découvrir un drôle de pays, celui où je vis depuis bientôt 15 ans, le plateau de Mille Vaches. Envie de partager avec toi ce qui fait que chaque jour qui passe, je me dis que j'ai une chance incroyable d'avoir choisi de venir vivre ici parmi tous ces gens. Parce que, au-delà des paysages, ce sont eux qui font la beauté de ce qui s'y passe. Alors, je t'invite dans chaque épisode à prendre le temps de rencontrer un de mes voisins, une de mes voisines, de l'écouter raconter sa vie, ses choix, son rapport au monde et à la vie qui s'invente ici. Avant de commencer cet épisode, je voudrais remercier chaleureusement toutes les généreuses, les contributeurs et les contributrices de mon Patreon. Une plateforme de financement participatif. Ces personnes me permettent de financer ce travail complètement autoproduit et indépendant, et en contrepartie, elles sont en lien direct avec moi, comme mon maraîcher qui me livre directement ses cagettes de légumes. Sans elles, les choses seraient beaucoup plus difficiles. Alors un grand merci à elles. Et si tu as envie de rejoindre notre joyeuse petite communauté et de suivre de très près mon travail, les dessous de la création de ce podcast, de mes films documentaires et même d'une série à venir, d'avoir accès aux épisodes d'Hyper Rural en avant-première et à des bonus, alors abonne-toi à patreon.com/Laetitia Carton. Alors là, c'est incroyable, je suis arrivée à la Villatte, qui est un hameau, un village, comme on dit ici. Je suis dans une grande prairie, j'ai traversé le hameau, il y a 3-4 maisons en pierre. Et là, je grimpe une colline, tout en herbe. Il y a encore la rosée de ce matin. Mes pieds dans mes sabots sont déjà trempés. Je suis un petit chemin et tout en haut de la colline, je vois une yourte. Toute recouverte d'une toile noire, avec des portes et des fenêtres rouges et blanches. À côté, il y a une chênaie, un flanc de colline. Je ne suis pas sûre que ce soit bien chez elle. Je vois deux yourtes. Il y en a une autre là-bas, une verte. Je suis bien chez toi, Hélène. J'arrive direct avec mon micro parce que j'adore enregistrer le chemin. Et là, avec les oiseaux, c'est magnifique. Oh là 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 là. Non, mais là, tu vis dans un paradis, en vrai.
Je suis d'accord.
Bonjour, Hélène.
Bonjour, monsieur.
Tu me fais visiter?
Ouais, bien sûr.
Ah, elle est super. C'est une 6 mètres.
Ouais, ouais, c'est ça. C'est une 6 mètres qui est haute, quand même. Ça me change parce que l'autre yourte, c'était vraiment la yourte type mongole, plus basse, avec les poteaux au milieu, aménager des fenêtres, tout ça.
En fait, moi, ce que je me souviens, c'est que ce que j'avais adoré, c'était vivre dans un rond.
Eh ben, c'est exactement. Alors ça, vraiment, ouais. Ça change tous les repères. Moi, je pense que j'ai besoin dans un habitat d'être... Que l'habitat, il me prenne dans ses bras, quoi. J'ai besoin un peu d'être contenu comme ça. Ça peut ne pas être toujours facile hein, d'être même seul ou tout ça. Et franchement, c'est hyper accueillant. Quoi. C'est...
Mais c'est un cocon, cette
ouais.
forme ronde.
Oui, ouais. C'est vrai. C'est ça. Non, c'est chouette. Hein.
Super. Oui, je t'ai apporté ton pain. C'est Vincent, ton voisin, qui me l'a donné en bas du chemin.
Et, ouais.
Et c'est le pain du pain levé.
C'est ça. C'est le pain du pain levé. C'est... Une des premières choses, c'est difficile à dire première, non c'est pas première, mais en tous les cas, le pain levé, c'est un collectif que j'ai rencontré rapidement et j'ai été, je me suis dit, oh là là, c'est quoi ça, tu peux aller faire ton pain, prendre du pain, plus ou moins à prix libre, même si, bon, bah, enfin en tous les cas, c'est possible, personne vérifie, t'as une caisse, tu mets ton argent... Tu vas faire ton pain, si t'en as envie, tu le fais pas, tu peux aller faire le bois, aider. J'ai dit, waouh,
c'est quoi ce... C'est quoi ta tisane préférée à toi?
Ma tisane préférée, je crois que j'en ai pas vraiment, en fait. Je pense que dans la vie, j'ai pas beaucoup de choses préférées, en fait. Non, mais je ne me reconnais pas trop dans ces trucs-là, en fait. Je pense que je suis dans le préféré du moment, en fait. Il y a des choses, et j'oublie, en fait. J'ai une toute petite mémoire et j'oublie énormément. Après, je peux dire que j'ai peut-être quelque chose avec la vigne. La vigne qui fait du raisin, mais qui n'est pas une plante qu'on va mettre en tisane, par exemple.
Et tu dis la vigna ?
La vigne. Non, j'ai dit la
vigne. C'est parce que tu as un accent.
Ah, peut-être.
Mais tu viens d'où, Hélène ?
Ben, je viens d'où ? Tu veux savoir d'où je viens ? D'où je suis sortie du ventre de ma maman ?
Ouais, je veux bien.
Et ben, je suis sortie du ventre de ma maman à Paris. Mais très très vite, mes parents ont déménagé en région parisienne, dans l'est de Paris. Puis à 30 ans à peu près, j'ai déménagé avec ma petite famille dans le Jura, où j'ai mes origines du côté de ma mère. Toute ma famille du côté de ma mère est jurassienne. Et j'y ai habité jusqu'à venir en Creuse, il y a 2 ans.
Les paysages, ils ont du commun avec le Jura, non ?
Ouais. Ouais, ça a quelques similitudes. Après, le Jura, c'est un peu comme la Creuse, c'est avec un truc supplémentaire, c'est la montagne plus haute. Mais sinon, c'est des paliers aussi. Donc, le plateau jurassien, bah oui, ça peut ressembler à ça. Alors, je peux te faire une verveine si tu veux.
Un quoi ?
Une verveine.
Ah ouais, t'en as ?
Ah oui,
ah, j'en ai. Plaisir.
Lavande.
Voilà.
C'est bien aussi. Hein. Pas avec, mais la verveine. Voilà.
Oh là là, j'adore. Et comment t'es arrivée là, Hélène, toi ? Parce qu'on se croise depuis quelques années, j'ai l'impression.
C'est une histoire très courte et en même temps très longue. Alors, je ne sais pas trop, quand on me pose cette question, quelle version donner, en fait. C'est très court parce qu'en fait, je me suis levée un matin, j'ai entendu une voix dans ma tête, hein, qui m'a dit « tu devrais aller voir la Creuse ». Département que vraiment je ne connaissais pas, à part Boussac. Quand il y a très longtemps, j'étais éducatrice dans un centre d'accueil d'adolescents handicapés. On venait dans une maison qu'une éducatrice avait à Boussac. Et on y est venu régulièrement. Mais donc je me rappelle être venue au lac de Vassivière. Donc bon, voilà, la Creuse pour moi c'était ça, c'était Boussac en fait. Et pourquoi ça, je ne le saurais jamais. Vraiment, je ne le saurais jamais. C'est vraiment une intuition d'un matin très, très forte. Et ça faisait quelque temps que je me disais que de toute façon, je vivais dans un lieu où ça n'était plus possible pour moi, que c'était très compliqué. Et c'est là où l'histoire est plus longue, et qui a de l'importance, évidemment, mais voilà, qui est vraiment longue et qui a préparé tout ça, je pense. Donc, le jour de cette intuition, m'est revenue l'idée que peut-être je serais quelqu'un qui pourrait vivre en collectif, mais j'aime quand même beaucoup mon indépendance. Donc, faudrait vraiment un collectif qui ne soit pas où tout le monde fait tout ensemble, je ne sais pas quoi, mais j'ai besoin des gens aussi. Je suis seule avec pas du tout l'envie de me mettre en couple. Enfin, je ne suis pas dans cette recherche-là du tout. Donc voilà, avoir envie d'être avec d'autres, mais pas forcément. Donc il y avait tout ça qui, certainement, à ce moment-là, était là, présent dans ma tête. Et j'ai pris mon ordinateur et j'ai tapé « communauté de vie » en Creuse. Bon. Et là, je tombe par les coquineries de l'informatique, quoi, qui m'ont envoyé sur communauté de communes. Vous voulez vous installer en Creuse, on vous aide avec un gros numéro de téléphone. Et du coup, à partir de là, je me suis vraiment vue. Alors là, pour le coup, je sais, pour moi, à titre personnel, que la vie est une grande pièce de théâtre. Voilà. Mais là, je l'ai vraiment vécu vraiment clairement. Je me suis vue prendre le téléphone, faire le numéro de téléphone, arriver au bout avec quelqu'un qui me dit « Oui, bonjour, oui, ma Hélène, j'habite le Jura, mais j'aimerais m'installer en Creuse. Il paraît que vous pouvez nous aider. Ah oui, oui, voilà.
Qu'est-ce que... » Et ça, dans la même journée que le matin où tu as eu l'intuition ?
Le matin même. Du coup, elle me dit oui, c'est vrai qu'on a des dispositifs, tout ça. Donc, je lui explique en gros quand même, ce qui n'était pas faux hein, du tout, c'est que je m'étais formée en art-thérapie, en mouvement et en danse 4-5 ans avant. Et que dans le Jura, ben, tout ce que je tentais de mettre en place, ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas. Et du coup, je dis, moi, je suis art-thérapeute et j'aimerais m'installer en Creuse. Ah. Elle me dit, ah, c'est super intéressant, oui, il faudrait qu'on se rencontre. Vous êtes disponible? Oui, oui, je suis disponible. J'ai une possibilité mercredi, on devait être le lundi. Ah ben, super, mercredi, 10h à Jansiou-Pigerol. Ok. Jansiou-Pigerol, ouais. Mais j'ai trouvé le mot très joli quand même, Jansiou-Pigerol. Franchement, ça donne envie de prendre ta voiture et d'aller au rendez-vous à Jansiou-Pigerol, quoi. Alors, vraiment, je prends ma voiture, je mets mon sac de couchage, mon matelas, mon vélo, et me voilà partie en Creuse. Et là, je me rends compte que, waouh, mais c'est vachement loin, parce que c'est pas du tout Boussac, quoi. C'est loin, quoi. Et trop drôle. Plus j'avance et je vois sur GPS, carte, tout ça, Faux-la-Montagne. Je me dis, mais Faux-la-Montagne, mais ça me dit trop quelque chose. Et là, je me suis rappelé, peut-être avant ma formation en art-thérapie, en 2015, donc je pense, j'étais coachée par une amie dans le Jura, avant que je fasse la formation en mouvement et en danse, surtout sur le corps, sur la danse, voilà. Et là, un jour, elle me dit, je co-anime une formation, une association en Creuse qui s'appelle Pivoine. Et elle me dit, je pense que si tu devrais venir faire la formation, ça, c'est l'entraînement mental. Je pense qu'Hélène, ça serait super. Et donc, toujours ça, du style, elle me dit le mercredi pour partir le lundi, quoi, un truc comme ça, quoi. Donc, ok, ouais, je fais 4 jours, je crois, d'entraînement mental. Et je me suis retrouvée à Faux-la-Montagne. Mais c'était... toute la journée, on était en formation. Moi, j'ai rien vu. J'étais hébergée chez Claude à Faux-la-Montagne, que j'ai retrouvée après, bien sûr.
Et tu t'es pas rendu compte en 2020 que tu avais déjà été en Creuse, dans un village. Pour toi, tu n'avais pas associé Faux-la-Montagne à la Creuse.
Parce que pour moi, c'était le plateau de Mille Vaches, que je ne connaissais pas du tout. Je n'avais pas fait du tout le lien, quoi. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'après, c'était un moment important dans ma vie, parce que sur cette formation, ces 4 jours de formation, c'est assez intense pour moi, parce que j'attendais une réponse pour partir à Berlin par le biais d'Erasmus+. Et j'ai eu la réponse de Berlin, où je devais partir très rapidement après, au moment de la formation. Donc, si tu veux, j'étais là et en même temps, j'étais déjà un peu marrée dans mon histoire de Berlin. Enfin, c'était un peu bizarre. Donc, moi, j'ai vraiment pas fait le lien du tout, quoi. C'est qu'après, les panneaux, la route, Faux-la-Montagne, je me dis, ah non, mais Faux-la-Montagne, ça me dit trop quelque chose, quoi. Et là, c'est revenu, Pivoine et tout. Et d'ailleurs, c'est après, grâce à Pivoine, que ma vie, elle a basculé. Enfin, ouais, enfin, voilà. Et du coup, ben voilà, j'ai pris ma voiture ce même matin, dans la journée, quoi. Et puis, je suis arrivée au bord du lac de Lavaux. J'ai passé la nuit. Puis après, je me suis rapprochée de Jansiou. J'ai vu Jansiou, Pigerol, qui était beaucoup moins... Je me suis dit, ah, c'est moins sympa que le nom. En arrivant comme ça... De toute manière, en même temps, c'était drôle parce que à ce moment-là, j'étais absolument pas. Enfin, il y avait une part de moi qui savait que j'allais rester, certainement. Je doute pas de ça, mais en même temps, j'avais vraiment un jeu, quoi. Parce que ce que je dis pas dans l'histoire, c'est mais qui est quand même qui a son importance, c'est que j'ai une enfant à l'époque qui avait 13 ans et je partais pas en Creuse m'installer loin de ma fille de 13 ans, quoi. Voilà. Donc c'était du jeu tout ça. Vraiment, quoi. Je jouais, voilà, c'est une opportunité de venir dans une région, que quelqu'un dise « Ah bah oui, on vous accueille. Oh, » Moi, j'ai envie d'être accueillie, moi. Ça fait du bien quand même, non? Bah, donc déjà, ce rendez-vous se passe super, super bien. Elle me donne mais, plein d'infos. Vraiment, comme si, mais il faut aller voir cette personne-là. Ah, mais il y a cette personne-là. Après, je me rappelle, il y a Leslie qui est arrivée, qui bossait dans les locaux. Et ben, après, je refais les ponts, quoi, si tu veux. Mais on a eu une super discussion. Et là, pareil. Ah, mais il faudrait que je te fasse rencontrer telle personne et telle personne. Là, déjà, là, je me disais, c'est... Mais alors, le truc drôle, c'est que, donc, j'arrive à ce rendez-vous, je me gare sur la place de Jansiou, et là, je remonte la rue, et là, je vois la magnifique devanture boulangerie de chez Morel, et il y avait une affiche, et il y avait « Recherchons vendeur boulangerie pour 4 mois d'été », un truc comme ça, et avec permis. Et là, mais tout de suite, je me suis emballée, je me suis dit « Oh non, mais c'est pas vrai, je vais avoir mon petit camion ». Et je vais aller dans les campagnes me porter le pain. Moi, alors là, j'ai dit, non, mais ça, c'est trop mon truc, quoi. C'est trop ce que j'ai envie de faire. Donc, du coup, je prends le numéro. Et après le rendez-vous, où j'avais déjà plein d'infos, je me dis, ah ben, je vais aller à Faux, la montagne, et j'irai voir Pivoine. C'est quand même, il faut quand même que je retourne voir Pivoine, quoi. Puis leur dire que je suis là, quoi. Puis d'aller voir cette boulangerie, quoi. Au cas où, pour l'été, pourquoi pas, un petit job d'été impeccable, quoi. Et là, j'arrive, et là, c'est un sketch, quoi. Au début, j'arrive, et puis je ne sais pas pour quelle raison, je ne vais pas directement à la boulangerie. Et là, je cherche Pivoine, mais je ne retrouve plus, je ne sais plus. Donc, je marche, et là, je tombe sur Sophie de Guise, qui sortait de sa maison. Et Sophie, je lui demande où se trouve Pivoine. Tout de suite, elle me dit, bon, pas de problème, tu fais quoi, là, là, là. Ben, je dis, ben voilà, j'explique. Ah ben, vas-y, c'est là-bas et tout. Donc, je vais à Pivoine. Il n'y a personne dans les locaux, je trouve personne. Je vois personne. Oh, bon, c'est pas grave. Donc, je pense que c'est là, après, je suis allée à la boulangerie. Et là, la boulangerie, j'ai rendez-vous avec Monsieur Morel, enfin Magali, du coup, me dit, ben, faut voir avec mon beau-père, etc. Et puis là, un super entretien se passe, et puis il mettait sa crème dans ses pâtes à choux, et on a beaucoup parlé, c'était très, très généreux, très sympa, et il me dit, ben oui, je vais, ben, notez-moi vos coordonnées, là, voilà, je vous rappellerai, et tout. Mais en fait, j'avais compris que ce n'était pas pour avoir un petit camion et puis faire les tournées. Donc, moi, ça m'intéressait beaucoup moins, quoi. Mais bon. Donc là, il y a quand même une part de moi qui commençait à me projeter de rester, d'être dans l'été, quoi. Mais voilà, en même temps, j'avais toujours cette idée, je vais repartir de tout bien dans le Jura. J'avais une semaine, ma fille, on était en garde alternée. Donc, moi, à la fin de la semaine, je retournais voilà, dans ma vie, quoi. Et je déambule, je ne sais pas ce que je fais, je vais peut-être boire un café à la Feuillade, trop sympa, bah, tout de suite des gens, bonjour, nanana. Et puis je ressors, je retourne direction Guise, pour quelle raison, j'en sais rien. Et puis là, je croise Olivier du Volubilis. Et puis je lui dis, ah oui, et puis comme il y avait cette histoire, que je lui disais, ben oui, mais quand même cet entretien, il mène peut-être à quelque chose. Si toutefois, il y a un truc... Peut-être que je trouve un logement. Donc, je croise Olivier du Volubilis. Je ne sais pas pour quelle raison. Je lui dis, tu sais s'il y a des locations. Voilà. On commence à parler. Et puis, il me dit, oh, tu devrais aller voir à la grande maison, là, Guise. Peut-être, ils peuvent te filer des infos, tout ça. Je repars à Guise, donc, où j'avais vu Sophie un peu de temps avant. Et là, je frappe à la fenêtre parce que je ne savais pas trop par où on rentrait. Et là, c'est Sophie qui m'ouvre et qui me fait « Ah, bah, te revoilà !» Ah, ben, bah, comme si on était censé se revoir. Et tout. Ah, ben, bah, rentre boire un café. Elle me dit « Tu sais, heureusement que tu es tombée sur moi, hein, parce que par rapport au logement, hein, parce que tu serais tombée sur les autres, oh, ils auraient dit « Ah non, non, mais nous, on n'est pas un collectif machin, on n'accueille pas les gens comme ça. » Je dis, heureusement que tu es tombée sur moi. Puis on commence à s'attabler, boire un café. Puis elle me dit, qu'est-ce que tu fais, tout ça. Donc je lui explique où j'en suis, ce que je fais. Et elle me dit, ah non, mais Hélène, on a un truc à faire ensemble. On pourrait travailler ensemble, on pourrait faire des trucs ensemble avec les personnes âgées. Moi, tu sais, j'ai plus envie de travailler trop toute seule, donc dans l'accompagnement. Oh, là, elle me dit, ouais, il y a quelque chose à faire. Je dis, ben, ouais, peut-être, pourquoi pas. En bref, toujours. C'est vrai
que... Et on est toujours dans la même première journée,
ah,
ici.
Toujours dans la même première journée. Ah oui, je c'est, tout ça, c'est incroyable, quoi. Et là, c'est encore plus fou de tout, quoi, parce que bah, je dis, oui, bah, on pourrait réfléchir à ça. Et puis bon, on continue à parler, puis elle me dit, oh là, je suis en train de penser à une personne que j'accompagne, là, qui est à l'hôpital et qui doit sortir cette semaine, je crois bien, ou la semaine prochaine. Elle me dit, oh, bah dis donc, oh là, je suis sûre qu'elle chercherait quelqu'un contre logement, je suis sûre qu'elle... Bah oui, bah, pourquoi pas. Bon, bah, je ne sais pas, oui, il faudrait peut-être que je la rencontre. Bah, oui, mais elle est à l'hôpital. Hein. Bon, bah, je ne sais pas, je dis, bah, tu te renseignes et puis tu me redis, quoi. Puis voilà, quoi. Puis entre-temps, donc je repars. Entre-temps, j'avais eu un nouveau téléphone, mais parce que mon téléphone était tombé en panne, donc ça avant. Hein. Et ma tante, une de mes tantes, m'avait donné un vieux téléphone, mais le vieux téléphone où le raccord, c'est. Faut pincer pour embrancher le truc qui n'existe plus. Enfin, franchement, c'est le truc. Et ça passait pas, il faut la montagne, le téléphone tellement il était vieux. Mais quand même, comme je commençais à avoir des gens qui me disaient il faudrait appeler là, il faudrait peut-être que tu contactes ça. Je disais, mince, j'ai pas de téléphone parce que j'avais oublié mon chargeur. Voilà. Après, je dis, je vais aller voir Claude. J'avais ses coordonnées à Claude. Je me rappelais où était Claude qui m'avait hébergé pendant la formation à Pivoine. Du coup, je dis, oh, ben, tiens, je vais aller voir Claude. Claude, elle ouvre la porte. Elle me dit, Hélène, du Jura, comment s'est passé ton séjour à Berlin? Je restais comme ça, ouais, quoi. Je dis, Claude, tu me reconnais? Elle me dit, mais bien sûr que je te reconnais, bien sûr. Et t'es là? Ben, je dis, ben ouais, j'arrive là, je suis là. Enfin bon, c'était incroyable. Donc, le père, il y avait sa fille, tout ça. Sa fille qui me dit bah, peut-être tu pourrais aller à Felletin pour leur chargeur, voir. Ils ont des. Peut-être ils peuvent dans leur bazar, là, à la ressourcerie. Je dis oh, bah ouais, pourquoi pas. Donc ça, c'était donc toujours l'après-midi, quoi. Non, mais... Ah oui, non, mais c'est complètement hallucinant. Hein. Je dis ok, bon, j'avais plus rien à faire hein, ce coup-ci. Enfin bon, Sophie me dit je vais contacter la personne, voilà, je te tiens au courant. Moi, je savais que je restais encore 2-3 jours. Bon, voilà, il n'y a pas d'urgence, quoi. Après, moi, j'avais mon vélo, tout ça. Donc, je dis bon, Felletin, pourquoi pas hein, je veux dire. Je vais à la ressourcerie était fermée ce jour-là. Donc, c'était probablement pas un mercredi. Mais qu'à cela tienne, c'est pas. Elle me dit oh, mais il y a une pièce, là, il y a plein de fils, tout ça, ben, tu peux chercher. Bon, c'est hyper sympa de votre part, donc je me dis, bah mince, il m'autorise à aller chercher, je vais le faire, mais alors, vraiment, c'est comme si on me demandait d'aller chercher une épingle dans une boîte de foin, quoi. Je tire un fil, je sors le fil, le truc pile poil dans mon téléphone. Sauf qu'il n'y avait pas l'embout pour brancher à une prise, c'était que sur un allume-cigare. Super contente, hein, donc je remercie tout ça, allez, 1 €, merci beaucoup. Et me voilà, je dis, bah, faut que je roule, quoi. Donc, je me dis, oh, bah, tiens, je vais aller au Buisson. Je vais aller peut-être voir la tapisserie, tout ça. C'est vraiment des choses qui me... Voilà. S'il y a aussi des choses que j'aimerais faire dans la vie, c'est là, voilà, tout ce qui est autour de la laine, tout ça. Donc, je dis, je vais aller voir. Bah, c'était le Covid, donc je ne pouvais pas rentrer. Je sors donc, du musée. Je retourne à ma voiture. Le téléphone sonne. Sophie m'appelle. Elle me dit, écoute Hélène, j'ai eu la personne, elle est super branchée, sauf que c'est dommage, c'est pas sur place, c'est à Aubusson. Elle est à l'hôpital à Aubusson. Ben, j'ai dit, j'y suis à Aubusson. J'étais à Aubusson. Elle me dit, non, mais c'est incroyable. Elle me dit, bon, ben, non, mais c'est... Ah oui, c'est de la folie, quoi. Vraiment, c'était même trop, quoi, c'était... Parce que je crois que j'en oublie, en fait, tu vois. Il y a eu plein d'autres petits trucs, plein d'autres de petites rencontres, comme ça. Donc, me voilà partie à l'hôpital. Puis là, je rencontre Joël Lalleux, qui habite Châtain, avec qui je vais passer 2 mois incroyables chez elle après, quoi. Et qui, tout de suite, ça match, quoi. Elle me dit, oh, ça serait trop bien, tout. Je dis, bon, ben, ok. Donc, c'est pas la boulangerie, c'est ça. Je vais bien rester au moins 2 mois sur le coin. Donc voilà, maintenant, il faut juste que je reparte dans le Jura, que je m'arrange avec ma fille, quoi. Pour dire que, bon, de toute manière, c'était les vacances scolaires, donc je lui disais, bah, du style, aller avec son papa, ou elle vient avec moi. J'avais bien dit à Joël Lalleux que j'avais une enfant et que c'était OK vraiment qu'elle vienne et tout. Je dormais au bord du lac de Faux. Je sais, tous les soirs, il y avait des orages pas possibles autour du lac. Mais j'étais dans une zénitude. Je sais pas, c'était un truc incroyable, quoi. Je me baignais. J'étais juste à côté du... Je m'étais mis juste à côté du sauna public. Je ne savais pas du tout à ce moment-là que c'était un sauna public. C'est juste parce qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de pêcheurs. Et que... La seule place où j'avais pu mettre ma voiture camping-car, entre guillemets, bah, c'était là, en fait. Et donc, bah, voilà, j'étais à côté du sauna, sur cette petite plage, là, et j'y suis restée trois nuits, certainement. Et puis, c'est pareil, je crois que j'avais emmené des lectures, mais c'était trop bizarre, quoi. Tout était trop vibrant, trop fort, quoi. Très, très fort, quoi. Très puissant, quoi. C'était incroyable, quoi. Tout me parlait, c'était très, très, très fort, très... Très déroutant aussi, mais très beau. Donc du coup, le lendemain, je ne sais plus ce que j'ai fait exactement, mais j'ai dû rencontrer plein de gens. Enfin, hein. Et puis le soir, je me suis retrouvée à Faux, à la pizza, au camion pizza. Et là, je me dis, oh, bah, je suis en vélo, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mange une pizza sur place? Ben non, j'ai pas faim maintenant, mais l'emmener en vélo, c'est pas pratique. J'étais en train de me poser cette question-là. Il y a une fille qui arrive qui me fait, tu partagerais pas ta pizza avec moi? Et là, on se met à la fontaine, là, puis on commence à manger ensemble la pizza. Puis elle m'explique qu'elle chante à la chorale de Julien. Et que tu viendrais bien, viens chanter avec nous, quoi. Puis elle était éduque, donc elle commence aussi à me donner plein de tuyaux, à me dire, ouais, si tu veux travailler là, voilà, on parle de nos professions, tout ça. Donc du coup, le soir même, je me suis retrouvée à chanter à la chorale de Julien. Alors évidemment, comme si j'étais là depuis tout le temps, quoi. Toi, Julien, dans sa générosité d'accueil, là, là... Tu vois, incroyable, quoi. Donc, je suis repartie après le chant. Et puis, voilà. Mais après, je suis repartie dans le Jura. Et j'ai dit que j'ai annoncé que... Mais là, je sentais quand même que, si tu veux, je sentais que j'allais pas rester que l'été, quand même. Là, j'avais compris, quand même, que j'allais pas rester que l'été, quoi. Parce qu'à la fin de l'été... Au moment où je repartais, alors j'avais rien trouvé pour la suite, le jour de mon départ, dans la voiture, j'étais avec Joël, et elle me dit, non, tu sais pas, sur le crieur public, j'ai entendu qu'il y avait une yourte qui se libérait à la Villatte. Je dis, ah bon, à la Villatte? Je dis, je vais appeler Chantal, j'avais rencontré Chantal dans l'été. Parce que là, donc, du coup, j'avais passé 2 mois. Donc là, je commençais à connaître, t'imagines, voilà, je connaissais tout le plateau, là. Hein. en deux jours, j'avais fait le tour. Hein. En 2 mois. Donc, j'appelle Chantal, elle me dit, mais Hélène, j'arrête pas d'essayer de te joindre. J'arrive pas à te joindre. Bien sûr, cette yourte, je voudrais que ça soit pour toi et tout. Elle me dit, mais ça t'intéresse? Je dis, bien sûr que ça m'intéresse. Et elle me dit, mais alors, faut que tu viennes tout de suite, parce que moi, il y a déjà des gens qui veulent la visiter et tout. Et me voilà arriver. Je lui dis, non, mais tu me réserves la yourte. Moi, je repars. Je m'organise dans ma vie là-bas et je reviens. Et c'était évident que c'était là que je devais vivre. Évident. Voilà. Après, voilà. Alors, cette puissance, elle est... Elle est... bien sûr, mais c'est trop beau, quoi. Puis vraiment, de toute manière, c'est tellement juste pour moi d'être là, etc., quoi, vraiment. Mais après, bien sûr, ça a amené j'ai pas envie de dire que ça a amené, parce que ça n'a pas amené. Je pense que dans la vie, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est que ça a révélé plutôt des problématiques, on va dire, familiales, ou en tous les cas, des choses où les gens, j'ai d'autres enfants, j'ai 4 enfants, et où ce départ, il a fait exploser des choses, quoi, aussi. Et du coup, sur 4 de mes enfants, j'en ai 2 qui ne veulent pas. Ma fille ne veut plus me voir du tout, mon fils, il y a des tentatives, mais c'est très compliqué, et ma fille de 15 ans, elle ne veut pas venir, elle ne veut pas trop que j'aille en Jura, c'est un peu compliqué, c'est très compliqué quand même. Enfin, ça a été 2 ans aussi de grands bouleversements familiaux, où moi je me suis énormément re-questionnée sur mon rôle de mère, sur le rôle de mère, c'est quoi être mère, c'est comment, les choix, tout ça, c'est un gros gros travail sur ça. Vraiment beaucoup travail sur ça, de deuil, de respect de ce que les gens ont besoin, envie. Mais j'aurais jamais pu traverser ça si j'étais pas là non plus. Et si j'avais pas été là, évidemment, peut-être ça aurait été modulé les relations seraient pas vécues comme ça. Mais elles auraient pas été justes non plus, parce que ici c'est tellement juste pour moi que. Si on veut m'accueillir comme je suis, c'est là, c'est ici, quoi. Voilà. Mais pour le coup, si j'avais pas été là, ça j'en suis persuadée, je sais pas, parce que c'était des moments tellement durs, quoi. Ce chemin depuis 2 ans, aussi tellement dur, aussi. Hein. Mmh. Bien sûr, avec tout ce qui est magnifique, quoi. Mmh. Mais bon, je pense que j'avais quand même quelque chose en moi qui permettait de traverser ça, et vraiment ici, quoi, le lieu, les gens, vraiment. Ça, c'était. Mais je connaissais absolument personne ici. Je pouvais dire Pivoine, mais Pivoine, voilà, quoi, mais je ne connaissais. C'est vraiment. Moi, je me vois comme une espèce de plume, et boum! C'est là, ok, ah ouais, c'est là, ben, vraiment, je ne connais pas là, je ne connais personne là. Et en même temps, d'emblée, c'était une évidence que je connaissais les gens. Sophie, d'emblée, on s'est connus, enfin, Claude qui me reconnaissait, Joël qui, on a passé 2 mois, c'est vraiment une personne presque, c'est ma famille, quoi. Et puis après,
Et aujourd'hui, c'est quoi ta vie alors?
C'est comment ma vie? Bah, très bizarrement, je suis quand même pas mal occupée par une activité entre guillemets professionnelle. En tous les cas, on me propose des services contre argent sans que vraiment je fasse de démarche de ça. Après, ça reste dans tout ce qui touche l'accompagnement. Je prends parce qu'en fait, je me pose plus aucune question de savoir si c'est juste ou pas juste pour moi. Parce que, en fait, si ça m'est proposé ici, c'est que c'est juste, en fait. Donc, je me pose plus du tout de questions. C'est quoi que je dois faire? C'est quoi que je dois réaliser? C'est qui est-ce que je dois être? Avant, c'était oui, tout le monde dit que tu as de la créativité, mais non, mais moi, j'ai rien, je fais rien de mes 10 doigts. Et là, je me pose, mais plus jamais cette question-là. Moi, je suis là, point. Puis il y a des journées qui sont hyper chargées, des journées, mais c'est juste être dans la nature. Mais c'est très difficile d'ailleurs, parce que maintenant, je connais beaucoup de monde, donc j'ai envie aussi d'aller voir les gens que je connais, etc. Donc ça occupe vachement les journées, quoi. Mais aussi, j'ai beaucoup besoin de temps quand même pour moi, donc je peux aussi rester vraiment seule, mais pas faire grand-chose, quoi, en fait. Je me sens pas dans une obligation de faire quelque chose, quoi. Mais il y a un état d'être ici qui est vraiment très, très particulier. Vraiment. Après, je suis hyper contente d'être restée à la Villatte. Mais je pense que ça aurait été ailleurs, ça aurait été chouette aussi. Hein. Mais il se trouve que j'ai l'opportunité de rester à la Villatte et qu'il y a des très belles rencontres. Des gens comme Paul qui, je pense, m'aident énormément à faire un travail sur des questions que je ne me suis jamais posées, qui est un moment fort de ma vie en ce moment, sur le genre, sur. Moi, enfin. ces questions très fortes d'appartenance à quelque chose, d'enfermement et tout. Mais ça va très loin et ça me bouscule énormément. Donc je prends aussi beaucoup de temps que ça s'intègre dans le corps, tout ça. Donc voilà, pas comprendre les choses, enfin pas tenter de comprendre les choses intellectuellement, mais vraiment sentir, quoi. Ouais, oui, je suis une femme, et qu'est-ce qui me dit que je suis une femme? Comment c'est dans mon corps d'être une femme, pas une femme? Et ça, c'est, voilà, c'est, faut le vivre, quoi. Enfin, faut sentir, quoi. Donc, tous ces, voilà, mais c'est pas moi qui ai décidé ça, c'est, voilà, hop, Paul vient s'installer à la Villette, on boit le thé, on a beaucoup de plaisir à discuter, paf, ça se fait, quoi. Et moi, ça me questionne, et je sais que c'est très juste pour moi que ces questions viennent à moi, quoi. Ça fait vraiment partie du personnage de ma pièce de théâtre sur cette terre de lâcher tout ça, quoi. De lâcher toutes ces croyances limitantes et tout, quoi.
T'as quel âge, Hélène? Je demande toujours sous quel président de la République t'es née.
Oh là, je crois que c'était Pompidou, mais il me semble. Je suis née en 65. Non, peut-être pas. Non, c'est bien après Pompidou. Non, j'étais... De Gaulle. Je suis née sous De Gaulle. Ah ben oui.
Et je t'écoutais parler aussi tout à l'heure de. Moi, j'aime bien parler de ménopause parce que je suis ménopausée et j'ai l'impression que c'est tellement pas valorisé la ménopause chez les femmes, alors que j'ai l'impression que c'est un âge chez nous où il se passe des choses extraordinaires où justement, moi, j'ai l'impression de tout lâcher, de ce que je dois être, ce que je dois faire. On lâche tout ça et. Je trouve que c'est presque un état de sagesse vers lequel on tend que moi, je savoure. Quoi.
Et de grande créativité. Autant que je puisse en parler avec des... C'est vrai que je me rends compte que beaucoup les jeunes femmes, ici, en tous les cas, elles viennent... Enfin, souvent, j'ai des belles relations, en fait, où on aborde vraiment cette question-là. Parce que pour moi, la ménopause, c'est vraiment... Je pense que dans ma vie, c'est le moment où je me suis sentie le plus reliée à moi-même et à ma sagesse, ouais. Ouais, vraiment. C'est, je pense, là où j'ai pu faire des vrais choix pour moi, ce que je n'ai pas fait. Et je l'avoue, même par rapport à ce désir d'enfant, qui était un désir d'enfant, qui n'était pas un désir réel. C'était une pulsion, c'était un besoin de remplir quelque chose, de prolonger quelque chose. Voilà. Mais ce n'était pas moi en tant qu'être profond de moi-même, quoi. Et je pense que la difficulté, elle est là aussi dans la relation de ce que j'ai avec mes enfants. C'est qu'il y avait une sincérité à être maman et à faire tout mon possible pour essayer de comprendre justement même la généalogie, tout ce que j'ai pu vivre, transmettre, une recherche en thérapie, etc. Mais il y avait quelque chose, au fond, qui ne pouvait pas être avoué. Mes enfants, je les ai eus par besoin de combler quelque chose. C'était pas prêt que je puisse assumer qui je devais être vraiment, quoi. Je pense que ça aurait pu être très compliqué dans ma famille aussi, dans mon environnement. Je n'avais pas les outils pour. Hein. Et les enfants, la famille, c'était la porte facile, on va dire, à cette réalisation-là. Et c'était toujours, je pense, à l'intérieur de moi, il y avait une guerre intérieure, je pense. Quelque chose qui, en même temps, est magnifique, et hyper chouette, et très beau, etc. Et facile aussi pour moi, parce qu'en plus, c'est très facile pour moi aussi de m'occuper d'enfants et d'être enceinte, et etc. Mon corps, il sait faire ça facilement et tout. Les accouchements, c'est... Voilà, c'est super facile. Et en même temps, quelque chose qui m'empêchait, qui me restreignait, qui me remettait vraiment dans des cases. Voilà. Et ça, c'était très, très, très compliqué, quoi. Donc, c'était toujours bancal, je pense. Et pas rassurant pour des enfants aussi.
Thank you. Donc tu te projettes plutôt ici.
Moi, je me projette plus du tout, quoi. En fait, vraiment, je me projette plus du tout. Je pense que cette case-là, en moi, elle a vraiment, mais vraiment sauté, quoi. Je sais même pas si ça peut être prétentieux de le dire ça, mais c'est tellement vrai, quoi. Je ne me projette pas, je me projette pas ici. Je suis ici. C'est tellement juste, mais je pourrais presque dire ma vie, elle peut s'arrêter là, mais c'est pas quelque chose de triste. Mais c'est réel. Je sais pas. Je me projette pas, quoi. Je dis pas, tiens. Je sais pas. Je sais pas le dire. Je sais pas.
T'es là.
Je suis là.
Et est-ce que tu as une petite cosmogonie personnelle sur le sens de tout ça? C'est quoi le sens que tu y mets? C'est quoi la vie pour toi?
Pour moi, je dois être très honnête.
Oh non, tu dois rien en fait.
Non,
hein. Tu peux aussi ne pas répondre à la question.
Si je réponds, je ne peux que répondre de façon très honnête. C'est des choses qui ne vont peut-être pas être très entendables, j'en sais rien. Enfin, je ne sais pas où en sont les gens, tout ça. Mais enfin, bon, là, on va parler pour nous deux, quoi. Je pense que, si tu veux, c'est pour ça que je parle régulièrement de pièces de théâtre et de personnages, parce que je me pense vraiment comme un personnage maintenant. Je pense que vraiment, je suis... Il y a une phrase, j'ai une éducation à la base catholique, qui a été assez forte, où j'ai fait pas mal de choses qui m'ont construit dans ce mouvement-là. Et j'ai aussi reçu des enseignements orthodoxes, hébraïques, etc. Je me suis beaucoup intéressée à ça. Donc, que j'ai après lâché, hein, mais qui m'ont nourri vraiment. Mais il y a une phrase que j'aime beaucoup du Christ, c'est vous êtes sur ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Pour moi, c'est, voilà, si je dois résumer, moi je suis sur ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. C'est-à-dire que je vis, et de mieux en mieux, pleinement, ce rôle je ne choisis, enfin, quelque part, ce n'est pas moi qui choisis, etc. Bon, si, je peux me donner la mort, mais ça restera toujours un rôle dans la pièce de théâtre, etc. Et puis moi, mon personnage, ben, il ne me dit pas ça. Des fois, j'y ai pensé, mais je n'ai pas, j'ai pas l'élan, j'ai pas l'acte, j'ai pas le, voilà, j'ai pas le courage, j'en sais rien. Donc, je suis là. Et plus je me détends, plus ben, le personnage il est guidé par des ficelles qui, là, je n'ai rien à en dire. J'ai aucun mot à me dire, à mettre, etc. C'est un mystère. Mais il y a ça qui se passe, en fait. Mais ce que je pense, et que là, je pense que jusque-là, tout le monde pas tout le monde, mais plein de gens peuvent s'y retrouver. Là où moi, je pense vraiment, c'est qu'en fait, on vit une grande supercherie, c'est-à-dire que depuis très longtemps, cette pièce, elle devrait être arrêtée. Comme toute pièce de théâtre, c'est très drôle quand ça se joue, allez, on va dire 10 saisons, 15 saisons, j'en sais rien. Mais à un moment donné, c'est bon, quoi. Et puis ça se renferme, parce que plus personne sait, se rappelle, pourquoi, etc. Et pour moi, la plus vraiment... le sens, si ce n'est de se rappeler que c'est vraiment une absurdité totale, vraiment un jeu magnifique, parce qu'effectivement c'est magnifique, mais en même temps c'est un vrai enfermement, quoi. Voilà, moi ma posture, elle est, bah, mon expérience, je dirais, parce que c'est pas, elle est celle-là avec la vie et cette lucidité que j'ai, mais que je demande à personne d'avoir, enfin, c'est pas, quand je dis lucidité, c'est pas que l'autre qui n'aurait pas ça ne serait pas mieux ou moins bien, ça n'a rien à voir, c'est moi, cette lucidité vis-à-vis de moi-même, elle me détend totalement, quoi. C'est-à-dire que ça ne m'empêche pas du tout de voir la beauté de la vie, de voir la magie des gens, et que j'adore, et vraiment, j'adore ça, mais ça peut s'arrêter à tout moment, c'est ok, vraiment, parce que je ne suis pas ça, quoi, vraiment. Je dirais qu'aujourd'hui, ce à quoi je me réfère vraiment, je tente de me référer vraiment le plus pour moi-même, c'est ça se passe comment dans cet espace-là, quoi, à l'intérieur de moi, et qu'est-ce que je ressens, et aussi de faire, à tout moment, de pouvoir faire l'expérience que comment je peux alimenter ou pas les choses et comment je peux faire vivre ou pas les choses. Parce que ces choses, elles ne vivent que parce que il y a une chimie en moi qui fait vivre les choses, quoi. Mmh. Voilà. De là, que ça soit la tristesse, la peur, le bonheur, on va dire, en tous les cas, ça reste une création d'une chimie à l'intérieur de moi, et que c'est pas grave puisque ça fait partie, c'est ça justement l'expérience, pour moi c'est ça l'expérience, par la dualité, par l'autre, tout ça, mais si je me mets dans une certaine posture intérieure, je peux vraiment ressentir à un certain moment, à un certain niveau, à un certain endroit de moi, tout ça n'est pas concerné en fait.
Du coup, toi, je crois que je connais un peu la réponse vu tout ce que tu me racontes. Ton rapport au fait de vieillir et de mourir, c'est comment ?
Ben moi, c'est que du beau, hein, parce que vieillir. Bon, déjà, hein, je n'ai jamais trop aimé ça, et ça, c'était un peu compliqué en famille, mais les anniversaires, tout ça, c'est vraiment quelque chose, j'ai beaucoup de mal, quoi. Je trouve que c'est quelque chose de très, très enfermant, même si ça peut être très festif, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui enferme. Nommer son âge, etc., ça rappelle toujours, etc., et ça empêche de penser que tu as envie, je sais pas, d'être dans ta jeunesse ou plutôt dans ta vieillesse. Je sais pas pourquoi un enfant n'aurait pas envie d'être dans sa vieillesse, être fatigué, avoir envie de prendre une canne et se mettre dans un fauteuil, et que c'est super difficile. Et puis à 70 ans, boum, avoir envie de monter l'Everest, quoi. Tu vois ? Mais souvent quand même parce qu'on t'a dit, t'as 50 ans, t'as 40 ans, ah, tu commences à... Et puis, en fait, tout ça, c'est toujours été très compliqué pour moi, en fait. Vraiment. Donc, tout ce qui est, qui rappelle une mémoire de quelque chose qui enferme, c'est compliqué pour moi. Les commémorations, les choses comme ça, c'est compliqué pour moi. C'est ça qui est beau, c'est que pour moi, puisque c'est ce qui me bloquait, donc je me libère de ça, donc c'est beau pour moi, donc c'est beau de plus trop penser si j'ai 57, ce qui est dans notre calendrier le cas. Mais des fois vraiment très fatigué, mais vraiment très très fatigué. Ça peut être 100 ans et vraiment voilà. Et puis des moments, c'est vraiment, mais j'ai aucune différence avec, je sais pas moi, des jeunes de 20, 25 ans, 30 ans. Donc pour moi, si tu veux, aujourd'hui, c'est ça qui est important, c'est d'être à l'écoute chaque jour de... je veux dire qu'à chaque jour, je pourrais célébrer l'âge que j'ai du jour que je suis, quoi. Dire, tiens, ce matin, je me lève plus tôt en 90 ans, ou ce matin, je me lève plus tôt en 10 ans. C'est rare, hein. C'est très rare, hein, parce que j'ai un début de journée très compliqué, hein. C'est beaucoup d'angoisse le matin, beaucoup d'angoisse qui arrivent le matin. Une nouvelle journée, c'est pas youpi, une nouvelle journée, hein. Ça n'a jamais été ça, et je pense pour le coup que ça ne le sera jamais. Enfin, je sais pas, mais il y a toujours cette sortie de... Je pense que moi, la nuit, c'est... Enfin, je sais pas, je dois aller dans des sphères chouettes, quoi, je sais pas, et revenir là, c'est un petit peu... Ok, donc il me faut du temps, beaucoup de respiration, de... Ouais, ça se détend, et alors après, voilà. Là, je peux...
Du coup, je pose souvent cette question, mais peut-être comme t'aimes pas les commémorations, les célébrations, tout ça, est-ce que t'aimerais un truc particulier que les gens autour de toi fassent le jour où tu seras morte, pour ton départ ?
J'ai pas un truc particulier, honnêtement, mais évidemment, et c'est drôle parce que j'ai passé une grande partie de la nuit avant-hier avec Stéphanie qui participe au projet des cimetières sauvages, etc. Et évidemment que ça me parle beaucoup, beaucoup plus que certaines autres choses, etc. Mais ça n'a pas tant d'importance que moi quand même. Ça n'a pas tant d'importance pour moi quand même. En fait, je pense que ça, c'est une histoire de vivant, de ce qui se passera. Qu'est-ce que j'aimerais faire pour quelqu'un que j'aime, comment je vivrais ça pour quelqu'un que j'aime, que j'ai aimé, etc. Pour moi, moi je serais plus là, franchement. Hein, mais n'imaginez même pas que je sois là à vous regarder, quoi. J'en sais rien, quoi. faites votre pièce de théâtre, quoi, comme vous voulez, quoi. Celle qui vous fait plaisir, quoi. Et moi, je ferai celle qui me fera. Je pense que je ferai ce qui me fera plaisir pour les êtres que j'aime ou que j'ai aimés, pour me faire du bien, faire du bien à ma petite personne, voilà. Mais non, moi, en tant que morte, en fait, je m'en fiche un peu, quoi. C'est pas mon histoire, je dirais. C'est pas mon histoire. Ce que je pourrais faire, c'est si mes enfants, par exemple, me disent « Oh, nous, on ne veut pas gérer ça, on ne veut pas être embêté avec ça, ni financièrement, ni tout ça », ben voilà, m'organiser pour que ça ne soit pas porté par des gens, ben, effectivement, qui n'ont pas forcément à porter ça, quoi. Enfin, je sais pas, mais en même temps, une fois que je serai morte, fera bien quelqu'un fasse quelque chose, quoi, tant que, ou pas, mais ce sera leur problème, quoi. Mais de toute manière, en matière de vie, même si je parle de cette pièce de théâtre, tout ça, mes aspirations sont beaucoup plus de type, entre guillemets, et c'est vraiment avec des grands guillemets, chamanique, reliance à la nature. Je suis très, très. Enfin, l'eau est un élément qui est très important pour moi, voilà, qui m'apaise, qui me ressource et tout. J'aime beaucoup me baigner dans toutes les saisons. Enfin, voilà, j'ai un rapport comme ça à l'eau surtout, mais à la nature en général, qui fait que, voilà, bah, évidemment, je préfère mille fois une fête dans les bois qu'une fête dans une salle des fêtes, par exemple. Voilà. Mais moi, franchement, si ça danse dans une salle des fêtes, c'est bon, c'est tout.
Qu'on fasse attention à l'heure, non? Parce que toi, t'as un rendez-vous. Oh, mais non. C'est faille spatio-temporelle. Ah, pour moi, ça va, c'est, je sais que toi, tu travailles. Merci, vraiment.
Pas vraiment. Merci à toi, Laetitia. Merci à toi aussi pour tout... ce que tu apportes ici sur le plateau.
Voilà, c'était le nouvel épisode d'Hyper Rural, un podcast totalement autoproduit, sans un rond mais fait avec beaucoup d'amour et de bonne volonté. Un grand merci à Julien Padovani qui continue à créer et à offrir généreusement ses sublimes musiques qui donnent toute son âme au podcast. Merci aussi à Nicolas Joly qui donne de son précieux temps à chaque fois pour le mixage aux petits oignons. Un grand merci aussi à Julien Cernobori pour ses conseils et son héritage, et à Victoire Toyon, ils m'inspirent tellement tous les deux. Je vous recommande chaudement leur podcast « Cerno, l'anti-enquête » et « Les couilles et le cœur sur la table ». Si tu aimes Hyper Rural, parle-en autour de toi. Et surtout, si tu n'y habites pas encore, retourne vivre à la campagne.